Bordeaux FM. Bordeaux FM, au cœur de la métropole bordelaise depuis 2018. Bordeaux FM.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Oui, vous êtes bien sur Bordeaux FM avec nos présentateurs que je ne présente plus, mais au cas où je fais la tour de la table.
Salut, ça va ? C'est Stéphane, pardon.
Stéphane, bonjour à Stéphane.
On reconnaît la voix des Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour Katia. Alors, nous allons recevoir notre invité, Philippe Ménard.
Alors, bonsoir.
Bonsoir Philippe. Mais avant toute chose, chers auditeurs, si vous avez une question, n'hésitez pas. Maintenant, on a un nouveau site internet. Je ne sais pas si pour ceux qui l'ont déjà vu, Katia, j'espère que tu allais faire un petit tour là-dessus.
Mais oui.
Il est très
donc,
bien.
Donc, on a un chat, super. Donc, sur la première page, vous verrez, il y a radio en haut. Vous cliquez sur radio, vous descendez, il y a chat. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas, posez-la à nous ou à Philippe Ménard. Si vous avez une question pour lui, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, mais écoute, on va faire une petite présentation. Je vais te présenter un petit peu, Philippe, à l'antenne, avant que de te donner toutes les infos, enfin de te laisser la parole par rapport à des questions. Donc, ton parcours politique et personnel ont été marqués par différentes étapes, des défis même que tu as relevés remarquablement. Élu conseiller municipal à Barsac en 1989, si je ne me trompe pas, à l'âge de 18 ans. Tu es devenu adjoint au maire en 1993 à 24 ans. Ton engagement politique t'a mené à...
95.
J'ai dit 1995.
13.
Ah pardon, 1995 à l'âge de 24 ans. Ton engagement politique t'a mené à être maire en 2004 à l'âge de 33 ans. Président de la communauté des communes en 2008 à 37 ans. Conseiller régional d'Aquitaine en 2010 à 39 ans. Belle palmarès quand même. Et malheureusement en 2014, il t'est arrivé ce que tout le monde sait et tout le monde te connaît malheureusement, pas que pour ça, mais tu as eu un AVC qui a vraiment bouleversé, qui bouleverse de toute façon une vie et que tu as surmonté avec cette épreuve. Tu as écrit aussi un livre, L'AVC qui m'a sauvé la vie, paru en 2022, qui relate ton combat et ta reconstruction après cet événement. Tu as été aussi, j'ai vu ça aussi, tu as eu l'ordre du mérite national, l'ordre du mérite, pas mal, qui a été remis par qui ?
Nathalie Delattre.
Nathalie Delattre, évidemment, Nathalie Delattre, pour ton parcours politique et ton engagement associatif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
À quel sujet ?
Oh oui, c'est vrai, il y a tellement de sujets. Alors attends.
Mais tu as dit beaucoup de choses déjà.
Mais oui, j'ai dit beaucoup. Mais si, tu as peut-être une
question. Tu es bavard.
Ah, je suis bavard. Mais non, mais. Ça me parle. Ça...
Alors,
son
commence.
Début de carrière me parle, si tu veux, à Philippe.
On s'est connus, il était bébé, donc.
Oui, ça fait très longtemps. En plus, c'est vrai que ça fait très longtemps
qu'on se
connaît.
Bien sûr.
Un siècle.
Presque.
Soyons pas méchants. Non, mais c'est vrai, ça fait.
Faut 30 ans.
Plus de 30 ans, c'est vrai, ça fait plus de 30 ans. Ça fait 35
ans. Il avait des cheveux à l'époque.
Arrête. Bon, ça, les gens, ils savent pas si je suis chevelu ou pas. Non,
il
franchement.
En reste.
Ouais. T'as vu ? Merci, Esteban.
Pas autant que...
J'adore Esteban.
Pas autant que toi, mais...
Il est très chevelu. Donc, première question qu'un auditeur. Voilà. Alors, peux-tu nous parler un peu de ton parcours et de ton engagement associatif depuis ton AVC, principalement par rapport à tout ce que tu mènes en ce moment ?
Alors, la question est vaste. Après mon AVC en février 2014, j'avais rendez-vous avec mon neurologue pour faire un peu une révision. Et donc, il m'a demandé de m'engager, si possible, auprès des équipes médicales pour mener des actions de prévention des AVC. Alors, il faut se remettre dans le contexte. J'avais quitté mon fauteuil roulant, j'étais en déambulateur, et j'avais réappris à parler correctement, j'étais en train de réapprendre à marcher, à écrire. J'étais plutôt dans une période de reconstruction et je leur ai répondu d'accord, mais laissez-moi le temps qu'il faut pour m'occuper de moi. Ce que j'ai fait, pour une fois, j'étais ma priorité. Et donc l'association, quelques mois après, l'association AVC Tous Concernés a été créée. Et son... Sa mission, c'est de mener des actions de prévention des AVC auprès d'un large public qui va des publics sur les marchés ou sur les bords de plage, où on fait aussi de la prévention directement en entreprise. Donc on est mandaté par des entreprises pour intervenir auprès de leurs collaborateurs. Et puis, depuis quelques mois, on intensifie ce qu'on appelle les cafés AVC, qui sont des lieux de rencontre où des personnes qui ont été victimes d'AVC ou des aidants, viennent parler sur ce que sont leurs propres difficultés et sont aidés par des personnes qui ont de l'avance sur les phases qu'ils sont en train de vivre.
Merci. Oui, c'est pas facile là. Mais quels ont été tes plus gros défis que tu as dû relever après cette rééducation et cette insertion après ton accident ?
Ah, c'est un long chemin, en fait, sans qu'on ait conscience sur l'instant qu'il s'agit de défis. Lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était mon état et de ce qui allait être terminé, notamment en termes d'engagement public. En fait, je suis parti marcher jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai marché depuis Barsac 1143 km. Et le plus grand défi, c'était, j'en ai pris conscience après 1000 et quelques kilomètres en arrivant à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est que le plus grand défi, c'est comme tu n'es plus rien, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Et donc j'ai pris conscience de ce que je ne voulais plus en voyant les autres pleurer et vivre des moments très sensibles parce que justement ils allaient, me disaient-ils, rentrer dans la vraie vie. Et moi je me suis rendu compte que ma vraie vie elle était finie. Voilà, ma vie sociale était terminée, ma vie publique était terminée. Je respirais, je marchais, j'avais pas de problème matériel parce que j'avais pris les assurances qu'il fallait. Mais en gros, j'acceptais de n'être plus rien. Je voyais que je ne voulais pas devenir comme eux. Donc, à partir du moment où je ne voulais pas redevenir comme eux, il fallait que j'accepte que ce soit fini. Et donc, j'ai accepté que ce soit fini. Et le grand défi, c'était à 44 ans de construire une vie comme si j'étais un nouveau-né, comme si je vivais une seconde vie. Ça a été le défi principal. Le restant, c'est des petits défis.
Merci. Quels conseils tu pourrais donner aux autres victimes ?
Des conseils qu'on leur donne à tous les cafés AVC. D'abord, on écoute. Parce que des personnes qui ont vécu un AVC, qui sont en fait, il y a différentes phases. Après un AVC, on y passe tous parce que il faut accepter la situation, quelle qu'elle soit, quels que soient les handicaps physiques, invisibles, visibles, invisibles, ce que sont les incidences sur la vie de la personne. Et le premier des conseils que je donne, c'est l'acceptation. Sans l'acceptation, rien n'est possible. Et l'acceptation, elle se construit dans les différentes phases qui sont celles d'un deuil, puisqu'on n'est plus le même après qu'avant, et on passe dans les phases du déni, de la colère, de l'acceptation, de la dépression, de la résilience vers autre chose. Et souvent, c'est que ce que l'on n'arrive pas à faire tout seul, il faut se faire accompagner pour avancer. Donc le premier des conseils, c'est d'accepter ce qu'est la situation et d'accepter de se faire aider, notamment par psychologue ou psychiatre pour affronter la vérité. Et ce n'est pas aux proches de supporter ce que sont les conséquences de la non-acceptation,
Tout à fait. Surtout d'accepter de se faire aider.
C'est
parce
ça.
Qu'on peut ne pas accepter de se faire aider si...
À ce moment-là, on est un 45 tours rayé. C'est-à-dire que si on n'accepte pas de se faire aider... Il faut bien intégrer qu'un cérébro lésé, enfin qu'une personne qui a fait un AVC, c'est un équilibriste. C'est-à-dire que tout est extrêmement sensible, périlleux. Un grain de sable peut déstabiliser considérablement la vie de la personne. Et donc c'est un combat du quotidien. C'est pas « bon, j'ai fait l'AVC, bim bam boum, on passe à autre chose ». Non. C'est que même 10 ans après, je suis vulnérable, fragile. Voilà, ça exacerbe les traits de la personnalité, ça intensifie le côté... Il n'y a plus de filtre, en fait. Donc, ouais, ça intensifie le côté émotionnel, affectif. Et tout est déréglé. On peut passer d'une phase de tristesse à une phase de joie énorme, quoi.
Merci.
Oui.
Ton livre, L'AVC qui m'a sauvé la vie, est-ce qu'il a eu un impact, est-ce qu'il a eu l'impact que tu espérais? Que tu espérais surtout, et quel regard tu as eu par rapport au lecteur?
Alors en fait, une discussion que j'ai eue avec l'éditeur, en fait c'est un livre qui va durer très longtemps en fait. Parce qu'il y a 150 000 personnes qui font un AVC chaque année, donc 150 000 familles qui ont besoin de comprendre des codes, etc. Il y a eu une phase quand il était annoncé en sortie et quand le titre a été connu, où ça grinçait pas mal des dents. Parce que moi, l'AVC m'a sauvé la vie, et le titre, on le comprend à la fin du livre, mais l'AVC, ça bousille la vie. Voilà. Donc, il y a plein de gens qui se sont dit, celui-là, c'est tant mieux pour lui si l'AVC lui a sauvé la vie. J'ai eu des messages qui ont grincé des dents au début, et puis les mêmes qui, après avoir lu le livre, me remerciaient beaucoup d'avoir pointé du doigt et apporté des réponses, et notamment dans ce bouquin, j'explique ce que sont les différentes phases que j'ai traversées. Et donc, ça permet à des gens qui sont hospitalisés ou aux familles de comprendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quelques jours, je suis allé offrir des livres à la médiathèque des hôpitaux de Bordeaux. Donc, je suis allé leur apporter 5 livres parce qu'ils ont... au CHU, ou à Tastet-Girard, ou à Aulévêque, ou à Saint-André, ils accueillent des personnes qui ont été victimes d'AVC, ou des aidants, et si ça peut les aider, je suis sûr que ça peut les aider, tant mieux, mais je suis très content de la façon dont a été reçu ce livre. Alors c'est sûr que beaucoup de personnes qui ont été, que ce soit en Gironde ou que ce soit chez moi, peut-être ont eu un regard particulier parce que j'explique le processus et des choses pas jolies qui ont pu conduire à mon AVC. Mais en fait, l'immense majorité des gens dans la France entière, ce qui les intéressait, c'est qu'est-ce qui se passe après son AVC et comment il remonte la pente. Ce sont deux histoires qui intéressent les gens, qui ont intéressé les gens en fonction du Philippe qui habite ici et puis surtout AVC quand on est ailleurs, quoi.
Ouais. C'est pas facile du tout. En tant que... Oui, Katia, excuse-moi.
Justement, vous disiez que certaines choses vous avez amené à. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ou c'est quoi? C'est un stress permanent lié à vos fonctions?
C'est l'aboutissement de 20 ans, en fait. Hein, donc, c'est pas 6 mois avant mon AVC. J'ai eu une vie pas simple, puisque j'ai dit... mon homosexualité, j'avais 29 ans à peu près, dans un contexte particulier qui était les débats sur le Pax. Donc il y a eu beaucoup de saloperies autour de ça, notamment dans mon village. Et puis je suis devenu maire et ça a donné des boutons à plein de gens. Ça a exacerbé de la haine, des jalousies, des envies. J'ai été réélu en 2008 malgré tout, c'est-à-dire qu'ils se sont unis pour m'empêcher d'être élu, mais ils y sont pas arrivés. Et merci beaucoup aux habitants d'avoir permis cela. Et puis après, non, j'ai eu beaucoup d'adversité dans tous mes mandats, sauf au conseil régional. Et ça fragilisait le garçon que j'étais, voilà, ouais. qui avait son caractère. Après, il faut savoir que l'hypertension artérielle est la première cause des accidents vasculaires cérébraux. C'est retrouvé dans 80% des AVC. Donc j'étais pas fait pour ça en fait. J'étais pas fait pour mener une vie de combat. Quoi, voilà, c'est tout. J'étais là pour faire. Et puis j'ai vécu une carrière politique. Exceptionnel compte tenu de là où je viens, de mon âge, et qui se serait peut-être pas fini si j'avais pas fait l'AVC. Mmh. Mais en ce sens, au moins l'AVC, il a arrêté tout ça. Donc je l'en remercie.
Ok. Et donc justement, maintenant tu es président donc de AVC tous concernés. Mmh. Quelles sont tes priorités de revendication pour améliorer justement la prise en charge des victimes d'AVC en France?
Alors il y a plusieurs choses. Il y a éviter que ça arrive. Et puis
éviter que ça arrive. Ça c'est éviter sur le marché, toute la démarche.
Le problème c'est que quand on a à se poser la question de savoir comment on prend en charge les victimes, je trouve qu'il n'y a pas assez d'investissement des pouvoirs publics dans la prévention. On réfléchit beaucoup, mais au final, c'est les éoliennes qui brassent beaucoup de vent et qui produisent pas beaucoup d'électricité. Donc l'inconvénient, alors je suis très à l'aise pour dire ça, puisque notre association ne dépend d'aucun financement public. Elle est reconnue d'intérêt général, mais elle n'a aucun argent public dans son fonctionnement, pour une raison simple, c'est qu'on nous a gentiment expliqué que, en gros, notre travail n'était pas probant et que la prévention est quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être réalisé par des bénévoles. Ce qui est
sans les bénévoles, la France serait rien.
Peut-être des logiques, d'une certaine façon de voir les choses, mais moi, ce que je vois, c'est les résultats. Et là, je reviens d'une action menée par notre association sur les marchés de la Creuse, qui est le département le plus rural et le plus âgé de France. Et quand je vois, par exemple, à Guéret, où on a vu un peu plus de 200 personnes sur le marché, et qu'on trouve 42 hypertensions artérielles, et qu'on dépiste plusieurs cas d'arythmie cardiaque, ce qui m'inquiète, c'est les risques de faire un AVC. Et les risques de faire un AVC, c'est comment ça se passe après, pour la prise en charge. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de prise en charge. Soit on a la chance d'être très bien soigné, très bien, de rentrer dans des dans un chemin qui peut être une prise en charge, par exemple au CHU de Bordeaux, à la neurologie de Bordeaux, au Tripode, où ils sont particulièrement performants. Et à la suite de ça, suivant la gravité du cas, on peut avoir une place dans un centre de rééducation. Le problème qu'il y a, c'est que en Gironde, il y a 4500 personnes par an qui font un AVC. Aujourd'hui, on assiste à des listes d'attente dans tous les centres. Il n'y a pas de place. Il n'y en a pas 50 en Gironde. Il y a la Tour de Gassy, il y a les Grands Chênes, il y a Château-Rosé à Sénac, il y en a un sur le bassin. Donc finalement, il y a peu de place. Donc même si ce n'est pas dit, forcément, on fait un choix. Ouais. Et il n'est pas... impossible, ça arrive très souvent qu'une personne... Les trois quarts des AVC, c'est les personnes qui ont plus de 65 ans. Donc, on dit aux familles, maintenant, il faut trouver une place dans un EHPAD. Et le problème qu'il y a, c'est que il n'y en a pas de place dans les EHPAD, ou alors très très cher. Donc on a vraiment un problème de prise en charge, de rééducation rapide. On est face à une plasticité du cerveau, par exemple, où il faut agir très très vite, mais on n'a pas suffisamment de place.
Surtout que là, tu nous parles de personnes de 65 ans. Mm-hmm. Et justement, dans les listes, les priorités se font justement sûrement aussi par rapport à l'âge.
Je ne sais pas, un jeune
qui a un AVC qui a 18 ans va être peut-être prioritaire sur...
Déjà, un jeune qui a 18 ans qui fait un AVC, il y a plusieurs types d'AVC, il y a plusieurs raisons de faire un AVC. Après, est-ce qu'il y a une malformation cardiaque ? Est-ce qu'il y a un problème d'un anévrisme qui dans le cerveau ? Enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités. Ça, ce sont les médecins qui choisissent en fonction de l'état. Je suis pas sûr qu'il y ait une... Sous ta question, c'est qu'en gros, si tu as 85 ans et qu'on a le choix entre une personne à 85 ans et une personne à 25 ans, on va choisir celui qui a 25 ans. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, même quand tu as 25 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, c'est extrêmement compliqué d'avoir des places dans des centres de rééducation. Et puis au-delà de ça, c'est pas la même chose que de faire un AVC à Codéran ou à l'Aréole ou à Bazas. C'est pas pareil.
D'accord. Mais écoutez, je vous propose qu'on passe une petite musique pour nous détendre un petit peu et on se retrouve juste après.
Bordeaux FM, au cœur de la métropole bordelaise depuis 2018. Bordeaux FM.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse.
Je cours.
Et c'est de nouveau, on est là. Bonjour Philippe, nous sommes avec Philippe Ménard, une grande histoire. Philippe, pour revenir à ton histoire, comment tu as vécu ton retrait de la vie politique après ton accident ?
Bon, ça a été douloureux, mais c'était une évidence.
Douloureux, c'est-à-dire ?
J'ai pris conscience d'un certain nombre de choses qui n'étaient plus possibles et que j'avais plus envie de vivre. Je me souviens être venu au conseil municipal, l'hôpital Tassé Girard, qui s'occupait de ma rééducation, m'avait donné l'autorisation de venir à la séance du conseil municipal pour l'élection du maire. Donc j'étais resté 2 heures et puis j'étais reparti à l'hôpital. Et quelques jours après, on a voté le budget de l'année 2014 où l'opposition, ils se sont comportés comme des porcs, quoi. Et le mot est... je me lâche un
peu. Il est posé,
hein,
je dis les choses.
Ils se sont mal comportés. Ils ont même, à la sortie du conseil municipal, ça s'est très très mal terminé. Il y a même eu des plaintes à la gendarmerie. Enfin bon, ça a été un truc, tout a été classé sans suite auprès de mes proches. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai eu des coups de fil de la presse locale et j'ai dit non mais moi je veux pas m'exprimer, je veux qu'on me laisse tranquille, quoi. Et là je me suis dit non mais en fait c'est fini, quoi. En fait les gens n'ont pas changé. Alors à l'époque ils n'avaient pas changé et même 10 ans après ils n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes. Mais en fait, moi, j'avais changé. Je veux dire que mon AVC avait fait que il y avait des choses qui n'étaient plus possibles. Un, parce que j'avais plus envie de les vivre, et deux, parce que ça mettait en danger ma santé physique, morale, mentale, voilà. Donc, au final, ça a été un choix de partir. C'est-à-dire que personne m'a obligé à quitter mon poste de maire. Ça a été un choix que je regrette absolument pas. Je me suis choisi, voilà. Donc j'ai réuni mon équipe et je leur ai dit voilà, c'est fini, quoi. Je m'en vais, je reste maire le temps de mon arrêt de travail, mais puisque j'étais arrêté par la sécurité sociale, mais je dis mais c'est terminé, je reviendrai pas, voilà. Donc en fait, ça a été difficile, ça a été, je me souviens avoir eu une amie au téléphone, j'étais à un baptême et j'ai craqué, je dis mais je peux plus, même si ma vie était tournée vers ça, je peux pas, quoi. Je peux pas. C'est définitivement terminé. Donc vraiment, ça n'a pas été. Je regrette absolument pas d'avoir quitté mes mandats, d'avoir quitté la vie politique, parce que, je crois que, je vais te confier un secret. Moi, je n'ai jamais fait autant de politique. Voilà. C'est-à-dire que depuis.
Et politique dans le sens noble du terme.
Le problème, c'est que peut-être qu'avant, je la faisais aussi dans le vrai sens du terme. Et ce qui a peut-être aussi dérangé un certain nombre de gens. Mais aujourd'hui, je fais de la politique et chose que je n'étais pas peut-être à l'époque, sûrement même, c'est que je suis libre. C'est-à-dire, je peux arrêter quand je veux. Je n'ai aucune obligation. Je suis totalement bénévole. L'association n'a pas d'obligation, ne dépend pas d'argent public. Donc on fait, on est ensemble, on décide ce que l'on fait. Et puis voilà, quoi.
Ok. Dis-moi, tu as été aussi l'un des premiers élus à assumer publiquement ton homosexualité, donc en 1999, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'évolution de l'acceptation de la diversité en politique ?
Alors, je crois que la honte a changé de camp. La honte ayant changé de camp, ça nous permet d'avoir un Premier ministre qui est ouvertement homosexuel. Il y a même un certain nombre de gens gouvernement qui le sont et qui l'assument, et alors Même ceux qui étaient les plus critiques à l'égard des différences il y a quelques années, pour ne pas dire plus, je pense notamment à Le Pen qui voulait mettre parce qu'il faisait un lien entre homosexualité et sida, et on sait bien qu'aujourd'hui ça touche toutes les
malheureusement,
toutes
c'est
les couches de la population. On est passé à ce qu'est le RN aujourd'hui et où dans leur rang, ils sont très nombreux aussi affichés. Voilà. Donc, pardon.
Ce qui est vrai, oui.
Ce qui est oui, bien sûr. Oui. Voilà. Donc je pense que la haine a changé de camp. Je pense que le côté rance, il est autour de Zemmour et compagnie, et que le débat sur le PACS ont permis aux gens de se positionner. Après, il y a eu le mariage pour tous. Puis il y a l'adoption. Alors maintenant, il y a d'autres sujets qui viennent sur la table où moi je me sens absolument pas compétent, et puis même qui est le genre, le changement de sexe, etc. Bon, c'est je respecte, c'est pas mon combat. J'ai à l'époque, peut-être que ces combats-là ont permis.
D'avancer,
mais je reste à mes combats de l'époque.
Ok, Katia, je te voyais.
Je suis en train de réfléchir.
Tu étais sur une question.
À quoi?
Je vais en poser une autre. Il n'y a pas de souci parce que là le chat marche bien. Il y a du monde. Quels sont tes projets et tes ambitions pour les années à venir?
J'ai pas d'ambition et j'ai pas de projet. Voilà, j'ai des pistes, mais je suis plutôt dans je fais en sorte d'être dans le lâcher prise total tout en étant assez planificateur sur les actions qui peuvent être menées par l'association. La question a mûri, ça y est.
Oui.
Alors,
au-delà de vos engagements, est-ce que vous avez d'autres passions, qui êtes-vous en fait?
Oula.
Elle est curieuse, Katia.
Alors,
curieuse.
J'ai une passion qui est mon jardin.
Oui.
Donc, je ris parce que je suis parti à Dakar, puisque l'association est jumelée avec l'association sénégalaise des victimes d'AVC. Et donc, je suis rentré par le vol Air France. J'étais à 10 heures chez moi et j'ai chopé ma tondeuse et j'ai passé 5 heures dans mon jardin. Donc, je suis...
Ça détend, ça aussi.
Ma passion, c'est ça. Et puis, j'ai des animaux aussi qui font que je suis... chez moi, c'est plutôt... Donc, j'ai un poney, deux poneys, une ânesse, des dindons, des oies. Donc, des poules.
La petite maison dans la prairie.
Oui.
Presque. Mais ça, c'est mon jardin dans tous les sens du terme, en fait. J'ai besoin de ça. Et au-delà Stéphane me disait, oh là là, mais tu es reparti comme avant, etc. En fait, je marche à peu près 1000 km par an, parce que ça me permet de réfléchir, de méditer, et ça entretient le corps. C'est mon Prozac, en fait, la marche. Et là, je lui disais tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, je vais faire un tour de la péninsule ibérique en vélo en septembre-octobre, 4000 km, pour fêter les 10 ans de mon AVC. Donc, je suis tout ce qu'il y a de plus banal et je fais en gros que ce qui me plaît.
C'est beau ça, c'est
ça
beau.
C'est beau.
Oh, je ne sais pas si c'est beau, mais...
Parce que si tout le monde pouvait faire ça, ce serait
magnifique. Non, mais il ne faut pas que tout le monde fasse un AVC pour ça.
Non, du tout, bien évidemment.
Surtout pas.
Alors, dis-moi, que dirais-tu justement à des jeunes qui voudraient s'engager en politique aujourd'hui à la lumière de ton parcours? Toi, avec toute ton histoire.
J'ai compris. Pourquoi vous le faites? D'abord, je trouve que c'est bien d'avoir un idéal jeune, mais pourquoi vous le faites et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et reste ensuite à ce que... je crois qu'on n'est plus à l'époque de mettre uniquement des jeunes sur sa liste pour paraître branché. On est à l'époque de... et c'est d'ailleurs très très bien, de la parité. Donc je crois que la préoccupation des élus, de ceux qui font des listes électorales, c'est la parité. Et ensuite, à mon époque, on prenait des jeunes pour faire joli. Reste à trouver sa place. Heureusement, il y a des maires qui prennent des jeunes sur la liste, mais encore faut-il que il soit là pour faire, pour apporter, pour être complémentaire dans la réflexion, plutôt que pour rien faire, parce que ça ne se finit pas bien, sinon.
Ok.
Justement, il y a eu une évolution quand même de la politique, et cette rupture que vous avez eue, enfin, il y a eu comme un espace-temps. Est-ce que vous avez senti, vous, une différence après, sur la façon de l'aborder,
l'appréhender ? Entre quand et quand ?
Entre avant, quand vous étiez maire ? Oui. Et après, maintenant, est-ce que vous avez...
Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution ? En fait, je ne pense pas qu'il y ait... je ne ressens pas d'évolution dans le personnel politique. Je sens beaucoup d'évolution dans les citoyens. Et d'ailleurs, c'est partout comme ça, hélas, dans notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la consommation d'élus. Je ne vais pas dire que, d'ailleurs, on le voit hein, dans les attaques aux élus, dans les enquêtes d'opinion, dans le nombre de démissions, etc. Je trouve qu'on est, il y a beaucoup moins de respect qu'il n'y en avait par le passé, et on est dans la consommation d'élus. Et j'ai eu à gérer, notamment, un cas qui était. Les gens qui quittaient la métropole parce qu'ils trouvaient qu'ils payaient trop d'impôts, qui venaient habiter à la campagne parce qu'on payait trois fois moins d'impôts que sur la métropole, mais qui pour autant voulaient exactement les mêmes services que sur la métropole. Donc ils étaient plutôt dans une consommation de services avec des impôts discount. Donc j'ai eu cet aspect-là, des choses à gérer. Ceux qui me connaissaient depuis tout petit, et puis je suis devenu leur maire, et puis des gens qui arrivaient, qui achetaient leur maison et qui voulaient beaucoup de choses. Donc, beaucoup ont réfléchi depuis, oui. Évidemment. Mais je crois qu'il y a une évolution de la société qui fait qu'il y a une évolution des gens. Il y a l'égoïsme qui s'est beaucoup développé. On est beaucoup moins dans l'intérêt général au sein de la population, oui. que précédemment, quoi. Et les élus n'ont pas, contrairement à ce qu'on peut raconter, les tous pourris, les machins, les cylindres. Enfin, il y a 500 000 personnes qui sont élues en France. Et sur les 500 000, il y en a... 90% ce sont des élus communaux, oui. Donc qui n'ont aucun statut, aucune protection, qui sont pour une immense majorité d'entre eux bénévoles. On est loin de la poignée de parlementaires qui peut. Il y a 1000 parlementaires et il y a 499 000 élus locaux.
Oui, c'est pour dire.
Voilà.
C'est énorme. Dis-moi. Quel regard tu portes justement sur l'évolution de la prise en compte de l'handicap dans la société française aujourd'hui en 2024 ?
Alors ça, c'est dur. Parce qu'en fait, il y a deux handicaps. Il y a le handicap visible et le handicap invisible. Alors, le handicap visible, par définition, il est facilement identifiable par tout un chacun. Et la loi oblige à la fois... un certain nombre de pourcentages, enfin un pourcentage dans l'effectif, et oblige aussi à des aménagements de l'espace public, de l'accès au transport, au trottoir, etc. Bon. Et puis, il y a le handicap invisible, où, par exemple, moi qui suis en invalidité, sauf que après il faut que je vais rentrer chez moi et je vais être très fatigué, je le sais, et je dois en permanence doser les choses pour m'en sortir. J'ai des problèmes cognitifs, j'ai un problème d'ordonnancement des choses, de fatigabilité, c'est très problématique. Mais au final, à partir du moment où ça ne se voit pas, c'est que ça n'existe pas. Et le propre du handicap invisible, notamment, c'est que même quand on a une discussion et que bon, repas de famille ou autre, bah, la personne se met sur off, voilà, et puis reste dans sa bulle, ce qui peut créer des problèmes psychologiques, l'enfermement sur soi, enfin des problèmes importants. Mais là, il n'y a pas de reconnaissance de la société. Alors déjà que ça traîne des pieds pour le handicap visible, le handicap invisible, sauf les grosses entreprises, parce qu'une personne qui souffre de handicap invisible, elle a un statut de handicapé. Donc elle rentre dans ce que sont les obligations, notamment salariales, dans les entreprises.
Oui, mais ça fait plaisir qu'aux sociétés, qu'aux entreprises.
Bah, pas que, parce que ça permet à des gens de reprendre une activité professionnelle, ça leur permet d'avoir un accompagnement particulier. J'ai donné une conférence à l'École nationale de la magistrature où justement il y a une juge qui a fait un AVC et il y avait tout un accompagnement de l'École nationale de la magistrature pour le retour à l'emploi de cette personne.
Oui, voilà, mais comme tu le dis, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un de touché qui était elle-même juge.
Je crois qu'ils ont, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 6% de l'effectif. Qui doit être en situation de handicap. Alors, je ne citerai pas des entreprises, mais on intervient auprès de grosses entreprises donc, qui ont des effectifs assez importants. Et donc, à ce moment-là, qui dit effectif important dit emploi réservé ou adaptation du poste en fonction du handicap de la personne. Le problème qu'il y a, c'est qu'une personne qui travaille dans une PME ou chez un artisan, ben forcément, l'artisan ou la PME n'a pas la possibilité d'adapter le siège ou de proposer un siège. Donc c'est problématique. Et puis, ben à ce moment-là, il y a l'allocation adulte handicapé, qui est plutôt de la précarité sociale qu'un véritable statut.
Ouais, c'est ça, parce que pour une personne handicapée invisible, il n'y a aucune évolution de possible dans sa structure.
Mais il y a exactement la même reconnaissance, évolution, non. Une personne qui est handicapée, elle va avoir une occupation et un poste adapté. Encore que une personne qui souffre de handicap invisible, ça peut occasionner des difficultés particulières pour occuper un poste.
Tout à fait,
mais
oui.
Une personne qui a un handicap moteur, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un accident de voiture ou autre, ou un handicap de naissance, ça ne veut pas dire que le dernier étage de la fusée ne fonctionne pas bien. Donc il suffit de veiller à l'accessibilité, à ce que le poste soit parfaitement adapté, mais il n'empêche qu'elle a des capacités intellectuelles.
Oui, tout à fait, mais là on parle sur des handicapés physiques,
oui.
Visibles.
Oui.
Mais pour l'handicapé invisible, là, pour lui,
il y a d'autres problèmes.
La société, c'est ce que je disais tout à l'heure,
la société se sert
de son pourcentage d'handicapés qu'elle a embauché.
Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire comment ça se passe. Simplement, le handicap invisible, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne se voit pas, ça n'existe pas et ça n'appelle pas la compassion, l'attention, la gentillesse et on roule à 3000 tours minute.
Oui, oui. Je le vois moi-même. Comment tu as vécu le fait d'être réélu maire à Barsac malgré ton handicap à l'époque?
J'étais même pas en situation de handicap. Hein. J'ai fait mon AVC le 12 février 2014. J'ai pas fait du tout campagne. Donc mon équipe a fait campagne. Mais bon, j'étais déjà maire depuis 10 ans. Donc il y avait à la fois une certaine reconnaissance du travail effectué et puis il y avait de la sympathie, pour pas dire de l'affection. Alors pas de tout le monde, hein. Comment je l'ai vécu, comme j'avais pas la lumière à tous les étages à l'époque. La réélection, ça m'a fait plaisir évidemment. mais j'étais pas, voilà, j'avais pas la conscience, j'avais pas vraiment les planètes alignées. Ce que je sais par contre, c'est que ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Mais ça, c'était pas mon problème. Et d'ailleurs, puisqu'il y avait des photographes et France 3 notamment, quand je suis venu voter, j'ai vu des têtes qui n'étaient pas des plus sympathiques. Mais bon, j'espère pour eux qu'ils s'en sont remis.
Super. On va écouter une petite musique d'ailleurs que tu as choisie. Et après, tu vas nous dire aussi surtout pourquoi.
Passer la folie des grandeurs, l'envie de jouer les grands seigneurs. Passer l'ivresse, passer l'ardeur, quand les fruits n'ont plus de saveur. Revenu de 7 ans de malheur, d'un accouchement dans la douleur. Lassé de mentir et faire l'acteur, quand on n'est plus à la hauteur. Restent les murs porteurs des amis en béton, un frère, une petite sœur pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons. Des promesses, la main sur le cœur, plus fort que d'être le meilleur. Perdu dans le collimateur, qu'on soit soldat ou déserteur. Des candies gravés dans le cœur, des milliers d'heures de vol au compteur. Des beaux discours, des beaux parleurs, qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur. Restent les murs porteurs des amis en béton, un frère ou une grande sœur pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons. Jouer les durs, les cascadeurs, des souvenirs hauts en couleur, de l'utopie, d'un monde meilleur, de tout ce qu'on a appris par cœur. Restent les murs porteurs pour se couper du vent, pour tenir la longueur, faire face aux tremblements. Restent les murs porteurs pour s'abriter du froid, pour conjurer le malheur et retrouver sa voix.
Bordeaux FM, au cœur de la métropole bordelaise depuis 2018. Bordeaux FM.
Et bonsoir, nous revoilà avec toujours notre invité Philippe Ménard. Alors Philippe, pendant la petite pause là, je me suis rendu compte que j'avais oublié déjà de te poser la question pourquoi tu avais choisi la musique d'avant. Mais restons sur cette musique. Pourquoi tu as choisi cette musique de Florent Pagny?
Parce que si on écoute bien les paroles sur les murs porteurs, ça ressemble à ce qui m'est arrivé, sur qui j'ai pu compter. Donc mes murs porteurs, mon compagnon, ma famille, mes frères et sœurs, pas beaucoup de monde hein, au final. Mais mes murs porteurs, ce sont, ça a été mes béquilles humaines. Hein, voilà. Donc, mais quand on écoute vraiment les paroles de cette chanson, ça alerte les uns et les autres sur l'artifice, sur les vraies valeurs, sur ce qui reste après un tsunami et qui participe à la reconstruction. Et évidemment, même 10 ans après, ces personnes sont toujours là. D'autres sont plus là, d'autres, pour des raisons X ou Y, m'ont trahi. Mais ceux-là, ces murs porteurs ne me trahiront jamais.
Ok, merci. Et pour la première musique qui était Indiana, la dernière danse.
Ouais. C'est la dernière danse, le titre.
Oui. Peux-tu nous raconter l'histoire
Elle est très simple. L'histoire, en fait, c'est que quand j'étais dans la chambre en neurologie, au 9e étage du CHU, après mon coma, mon extubation et tout ça, donc j'étais quand même pas frais, et tellement pas frais que je dormais beaucoup. Il y a encore 23h30, je disais tout à l'heure, je pense que je suis en dessous de la réalité, je me réveillais 3-4 secondes par-ci par-là, et chaque fois j'avais l'impression, j'entendais cette chanson sur la chaîne interne de... du CHU.
Radio CHU,
je sais pas si c'était Radio CHU, mais enfin c'était de la musique sur la télévision, c'était peut-être Radio CHU d'ailleurs. Et chaque fois, cette chanson, elle devait me réveiller, donc je l'entendais et je me disais mais quand même cette chanson, ça va faire un tube. Hein. Et donc ça fait un tube après. Mais voilà, donc chaque fois que je l'entends, ça me rappelle tout ça.
D'accord.
Alors, vous parliez tout à l'heure de prévention, justement. Comment vous l'abordez est-ce que vous avez des conseils à donner parce que je sais qu'en termes d'AVC, il y a la rapidité d'intervention qui est essentielle. Après, il y a peut-être des signes avant-coureurs. Il y a eu quelques campagnes qu'on a vues sur même à la télévision de mémoire ou sur les réseaux. Mais est-ce qu'on pourrait en reparler un petit peu ?
Alors, en fait, dans la prévention, il y a 3 niveaux. Il y a la prévention sur ce que sont les facteurs de risque, et notamment l'hypertension artérielle qui est mise en cause dans 80% des AVC. Et le deuxième facteur de risque, c'est l'arythmie cardiaque, qui est un dysfonctionnement du rythme cardiaque. Donc c'est ce que nous proposons de contrôler, voire de dépister, sur proche du minibus AVC qui nous a accompagnés notamment dans la Creuse que l'on a. Et après, il y a la sédentarité, la malbouffe, le diabète, le cholestérol, etc. Pour des raisons, je ne rentre pas, mais pour des raisons médicales, prise de poids et encrassement des tuyaux pour être clair. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de comment le reconnaître. Lorsqu'un AVC survient, alors il y a des signes qui sont, il y a les principaux signes qui sont la perte de mobilité d'une jambe, la paralysie d'un bras ou de la moitié du visage, une difficulté à parler. Et ensuite, il y a le bon geste qui est d'appeler le 15 pour être secouru le plus rapidement possible parce que chaque minute qui passe, ce sont 2 millions de neurones qui sont détruits. Et parce qu'en fait, l'AVC, c'est un arrêt brutal de l'irrigation du cerveau. Et donc, le sang ne passe plus. Et comme notre cerveau a besoin d'oxygène et de sucre pour parfaitement fonctionner, s'il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus d'apport, il n'y a pas de réservoir à sucre ou à oxygène. Donc, c'est une alimentation en continu, comme le streaming. Et donc, ce n'est pas grave s'il y a une coupure Internet, l'ordinateur s'éteint. Par contre, c'est grave dans notre tête si l'alimentation s'interrompt. Et donc, il faut absolument secourir très, très, très rapidement pour faire en sorte que le cerveau ne soit... qu'on arrête les souffrances et qu'on puisse intervenir.
Pas trop endommagé,
voilà, bien sûr.
Ouais.
Et donc, ce bus, donc vous parcourez la France avec ?
Alors, on a... donc, maintenant, il a... l'acheter en 2016, je crois. Donc, il a 7 ou 8 ans, je sais
plus. Il doit avoir beaucoup de kilomètres au compteur.
Non, pas tant que ça. Il a 63 000 pour être. Oh. Mais c'est 63 000 kilomètres de prévention. Donc, on est, par exemple, on est allé faire le tour des plages de la Bretagne, on est allé faire les plages de la Manche, on est allé faire les stations de ski du Massif Central, les stations de ski des Pyrénées, d'un bord à l'autre, les plages de la Nouvelle-Aquitaine, de l'île d'Oléron jusqu'à. Jusqu'en Daille, on a fait des tours de la Gironde, on en fait beaucoup, et donc mais essentiellement c'est quand même en Nouvelle-Aquitaine que
le Grand Sud-Ouest,
dans le Grand Sud-Ouest qu'on intervient.
Et donc on peut être dépisté, vous êtes équipé.
Alors pour faire,
il y a un équipement dedans qui
pour,
permet
pour faire des contrôles de tension, il faut des tensiomètres.
Oui.
Et pour faire du dépistage d'arythmie cardiaque, on a des petits bâtons, qui sont bourrés de technologie, c'est pas des bâtons en bois, et donc qui font des mini électrocardiogrammes et qui vérifient que le cœur bat correctement, régulièrement. Donc on est équipé de ces choses-là. Et puis pas toujours, mais s'il y a besoin d'imprimer. L'électrocardiogramme qui est dans le bâton, on est équipé d'un ordinateur, d'une imprimante, etc. Voilà.
Mais d'ailleurs, sur les marchés, je crois que des fois, vous offrez des petites machines exprès pour prendre la tension.
Alors, on a mené, notamment sur la métropole, il y a quelques années, les 10 jours de Bordeaux Métropole, notamment, où on avait un tram, qui était tram de la VC, qui était floqué. De part et d'autre aux couleurs de la campagne, et on a offert 1000 tensiomètres sur une quantité de villes. Voilà. Et je crois qu'on était venu d'ailleurs à Saint-Médard, je crois, je ne me souviens plus, mais on était dans la galerie marchande du Leclerc de Saint-Médard, voilà, pour être
local.
Donc on est allé un peu partout dans toutes les villes, et on offrait des tensiomètres. Oui.
Alors dis-moi, il y avait une petite question là que je voulais te poser. Elle revient un petit peu sur les autres d'avant, mais je n'ai pas eu la réponse que,
tu voulais.
Ouais, j'attendais quelque chose. Selon toi, quels sont les principaux progrès à réaliser en termes d'accessibilité et d'inclusion des personnes en situation de handicap ?
C'est la prise de conscience et la priorité. Je ne sais pas si cette réponse te va.
Mais, à moi, elle me va, mais...
Ça, après, c'est une question de politique, c'est une question de priorité. À partir du moment où et des bâtiments publics et des transports en commun ne sont pas accessibles, qu'il y a des grandes difficultés, ça, c'est au pouvoir public de les faire respecter. Que les magasins ne soient pas accessibles, c'est un autre problème. Et puis, moi, je ne veux pas aller sur un débat de la responsabilité des entreprises, etc. Ça, c'est. Parce que ça touche un terrain. Je pourrais dire des choses que je n'ai pas envie qu'y soient dites, que j'ai dit, mais voilà. Mais il y a quand même. Une problématique. Mais moi, quand je vois dans un autre domaine que le nombre de gens qui utilisent les places de stationnement de personnes handicapées parce qu'ils en ont pour 5 minutes, ou des gens qui utilisent des fausses cartes pour ne pas payer les parkings, c'est-à-dire que c'est un problème de prise de conscience de société, d'individualisme, de non-respect de l'autre, de non-respect du plus faible. Enfin, c'est un vrai travail. Et dans les pays du Nord où il y a un intérêt général et un respect de l'autre plus important, je serais un ayatollah. C'est-à-dire que une voiture qui est sur un stationnement handicapé, déjà, je lui enlèverais des points, quoi. Voilà, ça coûte 135 euros. Je sortirais deux points, voilà, tu vois.
Ouais, non, mais j'étais plus dans cette direction-là, justement, par rapport aux personnes, les incivilités totales. C'est pas forcément avec les administrations, mais les incivilités, par exemple, qui est handicapée, on va pas la laisser passer, on va pas lui donner la place dans le bus. Ou des choses comme ça, quoi.
Donc, à partir du moment où c'est pas.
Ils s'imaginent pas que ça pourrait être eux, quoi.
À partir du moment où c'est pas dans la conscience des gens. C'est pas une priorité, hélas, politique. Moi, qui ai une carte de priorité dont je me sers jamais parce que j'estime qu'il y a plus prioritaire que moi.
D'ailleurs, quand je t'ai vu arriver en voiture, tu n'as pas de carte sur la voiture.
Si, j'en ai une. Si j'en ai une.
Je ne l'ai pas vu sur ton pare-brise.
Je l'ai. J'ai une carte de... J'ai une carte de stationnement, donc là je me suis mis sur une place handicapée et qui était occupée par une maman qui est allée chercher son fils à la crèche, voilà, et qui en avait pour 5 minutes, voilà. Donc c'est ces choses-là qui font que, à partir du moment où c'est pas grave pour les gens, ça devient pas une priorité.
Ça les touche pas.
Ben oui. Alors les nouvelles cartes font qu'il y a moins de, mais à Paris. Quand les stationnements étaient, quand il y avait des pervenches, mais il y avait un nombre de handicapés à Paris extrêmement important. Sauf que maintenant à Bordeaux, il faut que tu aies, soit tu t'enregistres dans le système de la ville de Bordeaux et tu dois fournir la copie de ta carte handicapée. Et si tu te gares sur les places publiques avec une carte handicapée, il dépêche un policier à scooter pour vérifier que tu triches pas. Donc c'est quand même, ils le font, je l'ai vu. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se, il y a des gens qui s'en foutent quoi. Il y a aussi de l'individualisme et de l'irrespect.
Irrespect, oui.
De toute façon, ouais. Le manque de respect, c'est quand même le problème majeur de la société actuelle.
Mais des cas comme ça, malheureusement, ça peut nous arriver à n'importe quel coin de rue. Là, tu sors, tu sais pas si l'accident n'est pas là. Donc, enfin, vous restez. Positif, mais quand même, il faut être conscient des choses qui peuvent arriver. Enfin, dis-moi une petite question encore d'un auditeur. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre aux générations futures à travers ton parcours et ton engagement ?
Bon, d'abord, je suis pas...
Non. Excusez-moi, madame, mais non, il n'a pas 80 ans, il est tout jeune encore.
Non, je ne sais pas, c'est très prétentieux. Moi, je leur conseillerais. Je vais te répondre.
Oui, vas-y.
J'étais avec mon père aux obsèques d'un copain, enfin mon père, et mon père m'a dit est-ce que ça va, toi, mon drôle ? Et je lui dis oui, tu sais, ça va, parce qu'en fait, tu sais, j'ai qu'une chose à faire du matin où je me lève jusqu'au soir où je me couche, c'est d'être bien avec moi et avec les autres. Et donc, je peux refaire un AVC cette nuit. Vous pourrez dire. Et il a sa deuxième vie.
Tu as vécu
a été...
comme tu as voulu.
Et ouais, sa deuxième vie. Il y a Confucius qui dit on a deux vies et la seconde commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et donc, ce que je leur conseillerais, c'est de vivre pleinement, de s'aimer, d'aimer les gens et de faire des choses belles, quoi. Pas être dans l'aigreur, ça sert à rien. Ça peut s'arrêter demain. Et puis, pas forcément tirer des plans sur la comète. Et vivre plutôt l'instant présent. C'est comme quand moi j'ai la chance d'avoir mes parents encore, qui seront pas évidemment pas éternels. Mais ce qui est important, c'est l'instant présent, c'est les priorités, c'est son jardin, c'est ses murs porteurs. Le restant. Tout ce qui est vraiment, et c'est compliqué parce que un jeune aujourd'hui n'a pas la maturité d'esprit ni l'expérience que des vieux cons peuvent avoir. Mais il se trouve qu'on a été jeune un jour. Et d'être trépidant, à quoi ça sert, quoi ?
Il y a beaucoup de sagesse dans vos...
Ça peut prendre du recul. Hein.
Oui. Non, mais c'est du... Zen, quoi.
Alors moi, je vais revenir sur l'association. Mmh. Est-ce que vous êtes soutenu par des laboratoires pharmaceutiques ?
Non.
Vous les avez sollicités ?
C'est une volonté ?
Non,
ça ne s'est pas... Vous n'y avez pas pensé ?
On n'a sollicité personne.
D'accord.
Nous-mêmes, on n'a sollicité personne. On est beaucoup aidés par des mutuelles. Ou des entreprises parfois amies, Il y a notamment un laboratoire qui nous a aidés grandement, mais ça répondait à un projet qu'ils avaient en interne de faire participer leurs collaborateurs c'est pas le marathon de Paris, mais une course à Paris. Leurs collaborateurs de la France, mais pas que, sont venus participer à la course au profit de notre association. Donc c'était plutôt une belle histoire.
Oui.
Voilà. Mais on n'a pas sollicité. C'était quoi qui était derrière votre question ?
Non, c'était pour savoir si vous aviez un soutien d'un laboratoire ou autre. Il y a quand même une. Ils ont des moyens financiers relativement.
Nous, non. Justement, on a un conseil d'administration lundi et puis on a une assemblée générale au mois de mai, tout début mai. On a 75% de notre budget. Notre compte de résultat est à peu près à 140 000 euros pour l'année. On a les trois quarts de notre budget qui proviennent du mécénat, de dons, des entreprises qui nous aident. Mais on n'a pas de
Ce genre de partenariat.
Non, on n'a pas de one shot en fait.
D'accord.
On a C'est-à-dire que les mutuelles notamment qui nous aident, enfin les trois mutuelles qui nous aident, accompagnent des projets. Voilà, c'est plus, on cherche des cofinancements de projets.
C'est-à-dire mais quand on... tu peux les citer, les trois mutuelles, du moins qu'il y en a trois en plus, c'est très bien.
Hein. Oh non, mais il y a AESIO, Harmonie, la Caisse Nationale Mutualiste, la CNM, voilà.
D'accord.
Ok.
Non ? Bah écoutez, on va mettre une petite musique et on se retrouve par la suite.
Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Tu me dis que rien n'efface, ni la craie ni le sang, qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans, qu'on peut dire trois fois hélas, que personne ne l'entend, comme personne ne remplace ceux qui partent pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps, que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement, qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant, qu'après tout la voix se perd mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Tu me dis que c'est un piège, un jeu pour les perdants, que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc, que plus rien ne te protège, ou alors pas longtemps, que c'est comme un sortilège d'être seul à présent. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, pour être rassuré, avant d'être consolé, pour ne plus rien cacher. chercher, bien avant d'être apaisé. Il m'a fallu la peur pour être rassuré, et j'ai connu la douleur avant d'être consolé. Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, et j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur.
Bordeaux FM. Bordeaux FM, au cœur de la métropole bordelaise depuis 2018. Bordeaux FM.
Et nous revoici toujours avec Philippe Ménard. Bonsoir Philippe Ménard.
Bonsoir.
Katia, tu avais une petite question, je pense.
J'avais une petite question, et eh ben elle m'échappe.
Encore ? Mais dis donc, là ça...
Je suis dissipée ça, ce soir, je suis
attention,
désolée.
Attention, c'est un nom de maladie ça, il faut faire attention. Alors Katia,
pourquoi
je compte sur toi.
Pourquoi tu me regardes comme ça?
Mais parce que t'es en face de moi, Katia.
Tu attends la question.
Mais oui, j'attends la question que tu voulais poser.
Non, moi, c'était effectivement sur cette prise en charge qui me semble compliquée et qui correspond quand même à l'évolution de l'hôpital aujourd'hui.
Oui.
Bah, de façon générale, notre hôpital et le service de santé est malade.
Ah oui.
Voilà. Et alors, il se trouve que je siège au conseil de surveillance du CHU et
alors justement,
notre CHU,
un petit peu.
Oh, non, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais notre CHU est malade. C'est de notoriété publique. Le système de santé, ça craque de partout. Mmh. Voilà. Donc, qui dit système de santé dit prise en charge qui n'est pas optimale, et pourtant vraiment le personnel soignant, les équipes médicales font vraiment tout pour notamment au CHU pour nous secourir, pour nous aider, mais ils font avec la situation qui est celle du CHU de Bordeaux, mais de tous les CHU de France, qui sont tous en déficit.
Oui.
colossal. Donc voilà, mais inévitablement ça joue sur les chances du patient. Alors c'est vrai que alors moi j'ai une position qui est de dire mais il n'y a que le patient qui m'intéresse, évidemment, quand je prends la parole. Mais eux, ils ont d'autres préoccupations au-delà de celle-là, quoi.
Et oui, il y a la notion financière, il y a les effectifs,
il y a tout
un tas de choses.
Bah, de toute façon, le système hospitalier est à l'image de la société. Hein,
oui.
Donc, c'est extrêmement compliqué.
Oui, mais j'ai eu un témoignage là, il y a peu de temps. Alors, je ne sais pas si je pourrais faire venir la personne, c'est un petit peu compliqué. Sur la prise en charge en psychiatrie, alors c'est encore un autre domaine, mais c'est une catastrophe.
Il faudrait essayer de prendre ce sujet-là.
J'y travaille, mais voilà, c'est pas simple.
Et j'ai des invités à te proposer dans ce sens.
Il y a vraiment, il y a à dire sur beaucoup, et même sur le personnel. Hein. Enfin, il y a quand même une démission. Il y a,
c'est compliqué.
Dis-moi, Philippe, j'ai une petite... Enfin, ce n'est pas une question. Il y a Louis qui a posé cette question sur le chat. Enfin, qui n'a pas posé cette question, cette réflexion. Je voudrais que tu rebondisses là-dessus. L'indifférence envers les plus faibles, c'est la plus grande des incivilités.
Et
qu'est-ce que tu penses de cette réflexion?
Louis est philosophe.
Et peut-être, oui.
Bah,
écoute, on a des philosophes ce soir.
Enfin, je ne sais pas s'il y a des...
L'incivilité,
des,
c'est sûr.
S'il y a des petites ou des grandes... incivilités, mais on peut un jour être en haut de l'échelle. Je me souviens d'un monsieur que j'avais vu dans un centre de rééducation que je connaissais qui n'était pas véritablement apprécié, aimé dans son village, je n'en dirais pas plus, qui avait une personnalité particulière et qui s'est retrouvé dans le même centre de rééducation que moi, donc qui se voulait être en haut de l'échelle et qui le lendemain s'est retrouvé très très bas et avec des difficultés, notamment notamment financière. Ben voilà, il faut se dire que rien n'est linéaire dans la vie, voilà, et que on peut être puissant un jour et faible le lendemain, et que qu'on est une poussière, quoi. Je veux dire, on est là pour pas longtemps, mais alors il y a un truc. Alors là, je rentre pas dans les.
Mais si.
Non. Mais je pour bien expliquer comment on fonctionne, j'ai découvert. Après mon AVC, évidemment, je ne connaissais pas comment ça fonctionnait, mais en fait, on a un cerveau avec deux hémisphères, et un hémisphère qui est plutôt la créativité, l'apaisement, je schématise, hein, et puis un hémisphère qui est à gauche et qui est voilà, plutôt clac-clac, l'ordonnancement des choses, le côté. Et il se trouve que moi, j'ai fait l'AVC sur la partie gauche de mon cerveau. Ce qui fait que pendant plusieurs semaines, j'ai cette partie gauche qui a été, pas déconnectée, mais disons qu'elle a. Ce qui a pris de
l'ampleur.
Ce qui a pris de l'ampleur, c'est le côté créativité, apaisement, zen. Je me suis mis à écouter de la musique classique, je me suis mis à faire de la méditation, etc. Bon. Et donc, on se rend compte tout au long de sa vie, là, c'est vraiment schématisé, hein, ce que j'ai dit, mais on se rend compte, en fait, que il y a une chanson d'Obispo qui s'appelle « Les fleurs du bien ». Et
tu me l'as pas
non,
demandé.
Non, mais non, celle-là. Mais celle-là, non, je l'ai pas demandé. Ouais. Mais en fait, on se rend compte que de faire du bien, ça fait du bien.
Voilà. Oui.
De faire du bien aux autres, ça fait du bien à soi. Voilà. Et voilà. Et donc un petit bien, ça fait un grand bien intérieurement. Mais voilà. Mais c'est vrai que être méprisant envers l'autre, quel qu'il soit, ça ne grandit pas la personne et ça la nourrit pas.
C'est sûr. Et comme être bénévole dans une asso, donner de son temps pour les autres, il y en a qui ne le comprennent pas.
Ben non.
Moi, je le fais dans différentes associations. J'ai des amis, ils ne comprennent pas ça. Ils me disent « qu'est-ce que tu perds ton temps ?» Et moi, je leur dis « non. »
Et ton argent ? Moi, j'ai entendu ça récemment.
Alors, ouais, ils me disent « mais tu gagnes rien, pourquoi tu fais ça ?» Mais moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de m'occuper, de donner du temps, de faire des choses bien.
Comme tu le fais pour toi, tu n'as pas à te justifier.
Oui. Voilà. Mais il y en a, ils ne comprennent pas.
Tu sais, puis tu es aussi un miroir de ce que l'autre n'est pas. Donc, à partir du moment où tu fais des choses qui sont inaccessibles pour l'autre et qu'il regarde dans le miroir, il va te critiquer parce qu'il ne veut pas être ce que tu es.
Ouais,
parce qu'il est jaloux de ce que tu es. Enfin, voilà.
Ouais. Non, mais c'est sûr, il y a vraiment à réfléchir à ça. Katia, c'est quoi ces grands yeux? Ah, écoute, à chaque fois que tu me regardes, je sens qu'il y a quelque chose.
C'est parce que j'ai mis mes lunettes.
Ah là là, il y en a un très gentil, il nous dit « Superbe émission, bravo !» Merci à lui.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'actualité ?
Oui.
On a été...
bon, bien sûr, Katia, bien sûr.
Fait divers aujourd'hui, enfin hier, qui s'est passé hier à Bordeaux.
Sur les quais.
Triste. Qu'est-ce que vous pensez justement de... On parle beaucoup de l'évolution de la violence, bon, elle est là. Je ne sais pas, quand vous étiez maire de Barsac, est-ce que vous avez vu cette évolution ? Quand on a eu des maires hein, comme invités, qui l'expliquent, hein, qui expliquent qu'il y a cette violence qui monte.
On a eu Christophe Duprat.
Qui fait, effectivement, et ce manque de respect. Quel regard vous avez sur ça ?
Sur
cette société, sur...
La violence.
Oui.
Je fais en sorte de pas y vivre.
D'où le jardin.
Non, je fais en sorte que ça ne m'atteigne pas. Voilà, c'est-à-dire que je regarde. Forcément, j'ai été au courant de ce qui s'est passé, ce qui m'inquiète. Moi aussi, je suis sujet à certaines violences. Hein. J'étais sur la rocade. Je rentrais sur la rocade l'autre jour, j'étais à 90 pour ne pas me faire flasher en arrivant depuis Langon. Il y a un type qui est arrivé comme un malade, donc oui, je me suis... il m'a gueulé dessus, il m'a jeté une canette sur la voiture, enfin bon, voilà. Mais en fait, moi, ce qui me fait très très peur, ce qui s'est passé hier soir, à double titre, c'est problématique, ce qui me fait très très peur, c'est les enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et je ne parle pas des collégiens ni des lycéens, qui sont les adultes de demain. Et même les enseignants disent, mais on n'a jamais vu ça. Voilà. C'est-à-dire que, et les enfants sont le reflet des parents. Voilà. Donc, parce qu'un enfant violent, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un enfant qui vit dans la violence ou qui voit la violence sur les tablettes, sur le téléphone, etc. Donc oui, on a un problème, oui. On est à la petite graine des problèmes. Voilà. Donc on va voir comment ça va évoluer, mais moi ça me fait très très peur. Et l'autre problème qu'il y a eu hier soir, c'est les raisons.
Oui.
Qui conduisent à ça. C'est pas uniquement le coup de couteau. C'est le fait que la violence, elle naît parce qu'une personne estimant, de par sa religion, que l'autre n'a pas
à
consommer de l'alcool, pas sur la voie publique, mais pas à consommer de l'alcool parce qu'il est musulman, il y a une risque et il le tue. Voilà. Oui. Donc là,
et il d'ailleurs, en blesse un grièvement.
Et d'ailleurs, il y a eu aussi un autre problème, je crois que c'est à Bruxelles, où y a un type qui... Il y a des gens qui étaient attablés en train de boire à 4-5 heures. Il y a un type qui est arrivé et qui leur a renversé les tables et jeté les verres à travers la figure parce qu'ils n'avaient pas, à boire parce qu'on était pendant le ramadan. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de cette population qui pose
problème et qui est intolérante. Il y a un professeur aussi qui a eu des soucis là, il y a 2-3 jours. Parce que justement, elle buvait de l'eau en cours. Donc, c'était le professeur qui donnait les cours et qui a eu des problèmes. Effectivement.
Oui, mais quand des enfants...
Alors oui, là, ce sont des enfants. Hein, pour
disent où on sait, c'est... Ça veut dire que leurs parents ne leur ont pas expliqué les choses. Voilà. Et que eux sont musulmans, et j'ai des amis qui sont musulmans, et donc je suis allé fêter aussi le repas avec eux, etc. Mais ils ne viendront jamais me reprocher de boire pendant la journée. Après, il y a des minorités qui posent problème. Il y a des minorités dans les minorités qui posent problème.
Oui.
Oui, Katia ? Non ? Toujours pas ?
Non, mais... C'est la Sainte Katia ce soir.
Non, tout le monde pas. Mais il y a notre petit chroniqueur là qui est arrivé derrière, Jean-Michel. Je l'entends sourire. Aurait-il une question lui-même, peut-être ? Non, Jean-Michel ? Tu y as celui-là, si tu veux, juste
Jean-Michel
là.
Jean-Michel n'a pas de micro.
Mais si, il en a
un. Petite désorganisation ce soir.
Pas du tout.
Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Michel.
Moi, je voudrais revenir sur l'AVC. J'ai appris récemment qu'il est possible d'avoir plusieurs AVC de suite et pas forcément s'en rendre compte, mais avoir des séquelles bien sûr, mais pas forcément s'en rendre compte. Vous avez des précisions là-dessus ?
Alors, c'est l'accident ischémique transitoire. Alors, il peut arriver qu'une personne ait un AVC avec les symptômes que l'on a détaillés tout à l'heure qui sont... continue et qui nécessite une prise en charge très rapide, pour notamment au travers du 15. Et puis, il peut arriver qu'une personne peut avoir les mêmes symptômes et qu'au bout de quelques minutes, tout redevienne normal et qu'elle ne se rende pas compte de ce qui est arrivé. Et puis, ça peut arriver à plusieurs reprises, malheureusement. Ça peut arriver à plusieurs reprises la nuit, notamment. Et puis, même la journée, on peut être à un moment donné mal, avec une paralysie du bras. Et puis, 10 minutes après, tout redevient normal. On se dit, j'ai dû faire une mauvaise position. Les gens s'en inquiètent pas, sauf que ce que ça veut dire, en clair, c'est que le caillot qui a provoqué cette interruption momentanée, plus ou moins longue, du sang, eh bien, il a réussi à se faufiler, à passer. Et donc, il a permis au sang de recirculer normalement. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il se trimballe par là.
Donc, il peut reboucher quelque
part. Et il peut, alors pour le coup, il peut provoquer un AVC ischémique, ce qu'on appelle un AVC ischémique, c'est-à-dire le caillot, et qui, pour le coup, deviendrait beaucoup plus massif. C'est-à-dire que même si cette transitoire, eh bien, il faut appeler le 15 parce que ce que vont essayer de faire à ce moment-là les hôpitaux, ils vont d'abord passer une IRM. Et là, on va voir qu'effectivement, il y a eu un problème. Et ils vont faire, très certainement, après c'est eux qui décident, mais faire un traitement primaire qui est l'injection d'un produit puissant qui va tenter de dissoudre le caillot qui se trimballe. Et ça s'appelle une thrombolyse. Donc, si jamais il y a une apparition d'un signe, même quelques instants et que tout redevient normal.
Le 15.
Oui, et je vais juste vous donner un exemple. J'ai quelqu'un que je connais, donc son ancien mari a eu ce problème-là. Il était élu dans une ville sur la métropole. Et il a eu ce problème-là, et sauf qu'il n'a pas appelé le 15, alors que tout le monde lui disait « mais préviens-les ». Non, 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 non. Et il a fait un AVC massif après, avec des séquelles physiques, qui peut-être n'auraient pas existé s'il y avait eu une prise en charge tout de suite.
Et est-ce que vous savez s'il existe des traitements...
Médical
comment dire ? Pour prévenir un petit peu, pour les risques, je ne sais pas.
Les risques, on les connaît. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que dans 80% des cas, l'hypertension artérielle, elle est mise en cause. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'une personne qui souffre d'hypertension artérielle, elle se soigne. Alors, en clair, là aussi, je vais vulgariser. Qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle ? C'est la pression dans les tuyaux. Sauf que nos artères n'ont pas la possibilité d'extension pour tenir à la pression et pas péter. Et donc, en fonction de l'hypertension, elle crée des couches pour s'endurcir, mais elle crée des couches sur l'intérieur. Ce qui fait que plus il y a de tension artérielle, et donc de l'hypertension artérielle, moins le passage du sang est important.
Plus le tuyau est petit.
Et voilà, c'est ça. Et si vous y rajoutez du diabète, du cholestérol, entre le passage, les plaques d'athérome qui sont créées par le diabète, le cholestérol, eh bien à ce moment-là, si vous avez un caillot qui passe, c'est pas compliqué. Hein, si on a un passage qui permet que ça se circule, voilà, ça va. Mais si vous y rajoutez de l'hypertension, plus il y a d'hypertension, plus ça se réduit.
Super, j'adore. Écoutez, je vous propose une petite musique et on se retrouve par la suite.
Quand les oiseaux de nuit prennent peur de leur ombre, quand les dockers s'ennuient dans leur bière et qu'ils sombrent, je me parle de toi, je me parle de toi. Quand les loups en désordre jaillissent des parquets, quand les boxeurs vont mordre la poussière des rires, je me parle de toi. Quand les larmes des clowns viennent fendre la pierre, quand les instants d'amour deviennent années de lumière, je me parle de toi jusqu'au bout de... Je le blues.
je me parle de toi. Je me parle de toi. Quand la pluie des trop tard rêve de l'Atlantique. Quand le petit Mozart pleure sur sa musique. Je me parle de toi. Je me parle de toi. Quand les chevaux de bois retrouvent leur prairie. Quand le chasseur abat l'oiseau de paradis. Je me parle de toi.
Bordeaux FM. Bordeaux FM. Au cœur de la métropole bordelaise depuis 2018. Bordeaux FM.
Bonsoir, bonsoir, nous revoilà. Enfin, quelle heure est-il ? Ah là, 19h30 déjà. Nous revoilà avec...
Ça passe vite.
Et oui, très vite, en bonne compagnie. Mais Katia, oui. Et avec Philippe Ménard.
Oui.
Heureux. Dis-nous tout, pourquoi cette petite musique ?
Bah parce que j'aime beaucoup Mireille Mathieu, j'ai la chance de la connaître depuis 25 ans, un peu plus de 25 ans, grâce à mon copain Didier Ollier qui est fleuriste au Hayan. Et
un peu de pub.
Voilà, et je l'aime beaucoup depuis que j'ai 5 ans, voilà, donc... à 5 ans, on me réveillait, ma mère venait me chercher pour regarder Mireille Champs-Élysées.
Oui.
Et donc, à l'époque, c'était à 8h30, donc maintenant, c'est beaucoup plus tard. Et voilà, et j'aime beaucoup le personnage, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Et elle a pris beaucoup de... Voilà, ça fait partie des personnes qui pendant mon AVC, pendant cette période aiguë, ont pris de mes nouvelles. Et puis elle est gentille, elle est, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de partir au Canada au mois de février. Mireille faisait une tournée là-bas
de cette année 2024,
de cette année au mois de février, donc je suis parti une dizaine de jours au Canada pour l'accompagner pour cette tournée. C'était super.
D'accord, ok, impec.
Et comment va-t-elle ?
Elle va très bien. Elle va très bien, voilà. Elle ne change pas, et ça fait beaucoup de bien qu'elle ne change pas, parce que, voilà, elle chante l'amour, la douceur, c'est des choses qui en faisaient ricaner plein il y a quelques années, mais je discutais avec des amis là-bas, et en fait, elle est un repère, quoi. Et il n'y a plus beaucoup de repères de cette époque. Donc, voilà. Moi, je suis de l'époque de Mireille Mathieu, je ne suis pas de l'époque de Aya Nakamura. mais voilà.
C'est donc, sujet fâcheux.
Non, ce n'est pas fâcheux. C'est voilà. Donc, je me parle de toi beaucoup plus que Dja, quoi.
D'accord. Écoute, pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, de ce que tu veux maintenant, pour finir cette émission ?
Ce que je veux, c'est la paix. Voilà, ce que je veux, c'est être tranquille, et puis on verra ce qui se passera. Voilà, j'ai quelques. Alors, je siège au Césaire, donc.
Césaire, tu peux nous développer.
Césaire, c'est le Conseil économique, social et environnemental de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a le Conseil régional et il y a le Conseil économique et social et environnemental. J'ai été désigné par le préfet pour y siéger. Donc, j'apporte ma contribution à cette institution qui se réunit à l'hôtel de région. Et puis, il y a l'association qui continue son chemin, et le fait qu'on consacre beaucoup de temps à des personnes qui ont besoin de nous, des victimes d'AVC ou des aidants. Donc je ne sais pas de quoi demain est fait. Ce que je sais, c'est que ça ne durera pas jusqu'à mes 70 ans, et que c'est important le temps que je consacre à l'association aujourd'hui, parce que ce qui est important, c'est que c'est qu'après moi, bah, ça puisse continuer. Voilà, donc là, je vais partir en septembre-octobre pour faire 4000 km en vélo pour les 10 ans de mon AVC. J'ai envie, par exemple, en 2025, ça fera 10 ans que je suis parti à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, je refais le chemin 10 ans après. J'ai dû être bien aidé par Patrick Bruel et sa chanson « Rendez-vous dans 10 ans », je crois, titre. Oui. Et donc, voilà, je pars le 3 mai 2025 depuis chez moi. J'étais parti le 3 mai 2015 de chez moi pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà.
C'est... Les dates sont importantes comme
oui,
ça.
C'est un... Mais oui, parce que ce qui est important, c'est... Je disais beaucoup, quand j'étais aux affaires à la mairie ou même à l'association, je leur dis, il faut raconter une histoire aux gens. Voilà. Il faut raconter une histoire. Il faut embarquer les gens dans une histoire. Nous, la prévention, c'est une histoire. On rentre... par exemple, de la Creuse, quand on a dessiné avec François Rouanet, donc qui est neurologue au CHU L'Action, je lui dis, ben voilà, on va faire les marchés de printemps en Creuse. Voilà. Parce que ça...
C'est simple et on y va.
Voilà, on va pas sur les marchés en Creuse. On va faire les marchés de printemps en Creuse. Tu vois. Donc voilà, et puis là, on va faire une transversale en vélo au mois de mai. On part du bassin d'Arcachon jusqu'à Sète. On est plusieurs personnes qui avons fait des AVC, dont une personne qui s'appelle Philippe, qui va quitter son fauteuil roulant et qui va aller sur son vélo couché. Ben, on va pas faire une balade en vélo. On fait une transversale. Transversale. Donc on raconte, voilà, ce qu'on fait, c'est raconter des histoires, ça permet de... ça permet d'être joyeux, voilà. Donc voilà, puis j'ai pas de temps pour être, j'ai pas de temps inutile
à perdre.
Même si c'est ça, c'est un combat, hein. C'est un combat du quotidien que d'alimenter son jardin et son hémisphère droit du cerveau.
Merci Philippe.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup pour votre accueil.